Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est aujourd'hui que la marque aux losanges fait une croix sur Carlos Ghosn.
Conseil d'administration ce matin, 10h au siège de Renault. Le patron détenu depuis 2 mois à Tokyo doit être remplacé par un duo qui hérite d'une marque en pleine forme. Des ronds-points au Parlement européen, des gilets jaunes créent une liste pour le scrutin du 26 mai et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Dans l'actualité également, la confusion au Venezuela. Coup de force contre Nicolas Maduro. Le jeune président du Parlement annonce qu'il prend le pouvoir par intérim, mais il est soutenu par Washington. Et puis Neymar, encore blessé. Mauvaise nouvelle pour le PSG à 3 semaines maintenant du choc contre Manchester United.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous allez surfer avec les grands de ce monde.
Oui, ne me remerciez pas, je vous emmène au WEF. C'est comme ça qu'on dit, le forum économique de Davos, quand on s'y connaît un peu.
De météo d'ici 7h.
8 degrés cet après-midi à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales, où le soleil s'imposera, mais en contrepartie d'un vent violent.
RTL Matin.
Renault et Carlos Ghosn, fin de l'histoire.
Le conseil d'administration se réunit ce matin au siège de Boulogne-Billancourt pour débarquer officiellement celui qui tenait la maison depuis 15 ans. Carlos Ghosn régnait en maître durant ses réunions au sommet, distribuant la parole aux uns et aux autres. Cette fois, ce sera donc sans lui. À l'ordre du jour, la désignation de ses successeurs, car ils seront deux, sauf énorme surprise, l'actuel patron de Michelin, Jean-Dominique Sénard, et Thierry Bolloré qui assure l'intérim. Leur feuille de route est déjà tracée. Christophe Bourroux.
Premier objectif, maintenir les chiffres de rentabilité et de vente qui sont à un niveau record, plus de 10 millions de véhicules par an pour le groupe qui est désormais numéro 1 dans le monde. Alors si l'absence de Carlos Ghosn n'a pas eu de répercussions, son départ arrive au mauvais moment. En effet, tous les pays montrent des signes de faiblesse. Il va donc falloir rassurer les marchés tout en gérant l'arrivée des nouveaux modèles, à commencer par la nouvelle Clio qui sera bien dévoilée en mars prochain au Salon de Genève. Autre gros défi, la voiture autonome. Sa recherche et son développement nécessitent des choix, des budgets colossaux. Pour cela, l'Alliance est un atout car elle permet de réaliser des économies. Avec Nissan et Mitsubishi, la synergie dépasse les 5,5 milliards d'euros par an. Le vrai défi du nouveau président sera donc de pérenniser cette alliance. Enfin, il faudra aussi et surtout rassurer les salariés, 450 000 dans le monde.
Christophe Bourroux. Débarquement aussi, mais d'un autre genre, au Venezuela, la présidence Maduro vacille. Le dirigeant tout juste réinvesti pour un deuxième mandat doit affronter le coup de force d'un jeune homme de 35 ans, Juan Guaido. C'est le nouveau président du Parlement vénézuélien qui s'est autoproclamé devant des dizaines de milliers de partisans réunis à Caracas, président par intérim.
Je jure d'assumer tous les pouvoirs de l'exécutif national en tant que président par intérim du Venezuela, de garantir la fin de l'usurpation et d'un gouvernement de trahison et de garantir des élections libres.
Juan Guaido, aussitôt reconnu par Washington, le Venezuela traverse une crise économique marquée par une pénurie alimentaire, pénurie de médicaments également. Les manifestations de ces derniers jours ont fait 13 morts. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon, qui soutient depuis le début Nicolas Maduro, depuis son accession au pouvoir en 2013, dénonce une tentative de coup d'État en violation de tous les principes admis jusque-là dans le monde après une élection. Fin de citation.
Il y aura, selon toute vraisemblance, une liste gilets jaunes aux élections européennes.
C'est le projet d'une frange du mouvement Ralliement d'initiatives citoyennes qui devra encore trouver beaucoup de candidats. Vincent Derosier, on en est qu'au début, mais s'ils vont au bout, c'est Marine Le Pen qui pourrait en faire les frais.
Oui, pour l'instant, ils sont 10 et ont plus que jamais l'intention de chambouler le jeu politique. Les gilets jaunes se donnent jusqu'au mois de février pour sélectionner les autres candidats, mais la tête de liste, elle, est déjà connue. Il s'agit d'Ingrid Levavasseur, aide-soignante de 31 ans. Alors, dans la majorité, plusieurs responsables se disent surpris, mais agréablement surpris. On a tout intérêt à avoir quelqu'un avec qui on peut débattre, explique un cadre de La République En Marche. Maintenant, l'adversaire est parfaitement identifié. Plusieurs ministres, eux, se réjouissent de cette initiative. Les gilets jaunes vont prendre des voix au Rassemblement National, confie l'un d'eux. Un sentiment confirmé par un sondage ELAB dévoilé hier. La liste est créditée de 13%. Un sondeur explique que ce rassemblement inattendu peut également servir de vote défouloir. dans une élection qui s'y prête bien. Avec une liste gilet jaune, tous les partis sont pénalisés, mais c'est la liste de Marine Le Pen qui perd le plus, 3 points, ce qui permet à La République En Marche de renforcer sa première place.
Vincent de Rosier, Emmanuel Macron sera dans la Drôme aujourd'hui, il sera à Valence pour la troisième étape, dans la Drôme, pardon, de son grand débat à la rencontre des maires, mais dans un format cette fois un peu plus intimiste. La discussion aura lieu lors d'un déjeuner avec les élus et auparavant, le chef de l'État rencontrera en tête-à-tête le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et leader des Républicains, Laurent Wauquiez, qui a encore dit hier soir que le grand débat ne servait à rien. La grève devrait être peu suivie aujourd'hui dans les collèges et les lycées. 3 syndicats d'enseignants appellent à se mobiliser ce jeudi. Plusieurs revendications, la fin de Parcoursup, l'annulation de la réforme du lycée et du bac. Et ils demandent aussi l'abandon du service national universel.
Allez, on marque une pause dans ce journal sur RTL et ensuite, vous allez l'entendre, les assureurs ne sont pas toujours très tendres avec les victimes de la rue de Trévise à Paris.
RTL Matin,
Julien Cellier.
Et la suite de votre journal, comme promis sur RTL à 6h37. L'explosion au gaz avait fait 4 morts et 66 blessés rue de Trévise à Paris. C'était le 12 janvier dernier.
Des centaines d'habitants ont depuis été relogés. 16 immeubles au total ont été touchés par la déflagration. Les locataires ou les propriétaires doivent maintenant composer avec les assureurs qui ne sont pas toujours d'un très grand soutien, comme le montre ce reportage de Raphaël Vantard.
Il ne rentre chez lui que quelques minutes par jour. Timothée vit avec sa fiancée rue de Trévise, en face de l'immeuble soufflé par l'explosion. Accompagné par un policier, des pompiers, il vient chercher quelques affaires. Il passe devant la boulangerie pulvérisée. Il ne reste ici qu'un tas de gravats soutenus par quelques poutres métalliques provisoires. Le restaurant en face est retourné, les chaises, les tables, la vitrine, tout est brisé. Chez lui, dans son appartement, Timothée n'a presque plus aucune vitre. Les murs sont fissurés et pourtant, son assureur estime qu'il peut continuer à occuper son logement.
L'assurance nous a envoyé un expert qui est rentré chez nous, a vu que nos portes étaient scellées. Certaines de nos fenêtres sont juste des planches de bois qui laissent rentrer l'air avec le temps parisien actuellement. Il nous a dit « votre logement est habitable ». Bah effectivement, il fera un peu froid, ce sera un peu camping, mais c'est habitable.
Depuis 10 jours, Timothée et sa fiancée ne vont plus au travail. À la blessure morale s'ajoutent aujourd'hui les nombreux tracas administratifs.
Ayant vécu cette explosion en voyant des pompiers quasiment mourir devant nous, moi c'est la première fois de ma vie que je prends des médicaments. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 5 jours, ce qui me réveillait et ce qui me stressait, c'est d'avoir vécu cette explosion. Et cette nuit, je me suis réveillé 2 fois parce que c'est la gestion des assurances qui me stresse au quotidien.
D'autres sinistrés subissent le même sort dans la rue de Trévise. La mairie de Paris, la région, la préfecture tentent aujourd'hui de leur offrir une solution durable de relogement.
Reportage signé Raphaël Vantard.
Allez, on passe au sport. Maintenant au football, le PSG l'emporte mais s'inquiète pour Neymar.
Les Parisiens se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France en éliminant Strasbourg 2-0. Mais l'attaquant brésilien blessé au pied a dû sortir du terrain. Une fragilité qui ne rassure pas ses collègues à 3 semaines du choc attendu avec Manchester United en Ligue des Champions. Qualification aussi de Dijon qui a battu Saint-Etienne 6-3. C'est terminé pour le petit poussé Viry Châtillon, balayé par Caen 6-0. Tous les résultats sur notre site rtl.fr. En handball, première défaite des Français hier soir au Mondial. C'était face à la Croatie 23-20. Les Bleus affronteront demain en demi-finale le Danemark qui les avait battus en finale au JO de Rio. Mais Nicolas Karabatic garde la tête froide. Ah.
De toute façon, quand on arrive dans un dernier carré d'un mondial comme ça, quel que soit l'adversaire, il est à craindre et toute équipe qui rentre en demi-finale le mérite et est très dangereuse. Après, je préfère jouer le Danemark en Allemagne que chez eux, donc on va se concentrer sur ce point-là. Mais on a vu qu'ils étaient très, très costauds, en confiance, qu'ils ont très bien joué sur toute la phase de poule. Et ça va être un adversaire très difficile à jouer, mais on a toutes les clés, on a l'équipe pour les faire douter et pour les battre. Se battre par les Croates, on est heureux de notre état d'esprit et du combat qu'on a livré pendant 1 heure. Et maintenant, c'est le sport, on met ça derrière nous et on se concentre sur les Danois.
Voilà, la France contre le Danemark, ce sera demain à Hambourg. L'autre demi-finale, ce sera l'Allemagne contre la Norvège.
Merci beaucoup Jérôme et à tout à l'heure à 8h avec Yves Calvi. Le temps, Marina, dites-nous tout, c'est un peu plus calme aujourd'hui, on s'en félicite.
Oui, les précipitations sont moindres, mais vu ce qu'il est tombé hier et surtout vu les températures négatives, c'est le verglas qui est à craindre ce matin. Donc soyez prudents. On a encore quelques averses de neige près des Pyrénées, mais plus de vigilance orange. Le risque d'alance reste fort, hein, de 4 sur 5, surtout vu le vent qui est violent. Et puis il y a 2 départements qui sont en vigilance orange-neige. Ce sont les 2 départements de la Corse, a priori jusqu'à la mi-journée. On attend beaucoup de quantité de neige ce matin, un peu moins cet après-midi. Pour les autres régions, plus calmes et assez nuageux. Il y a quand même quelques éclaircies sur la façade ouest. Le ciel bleu va revenir en Méditerranée, mais là aussi le vent va souffler fort avec des rafales pour le Mistral et la Tramontane jusqu'à 100 km/h. Puis cet après-midi, des nuages. Alors il peut y avoir quelques averses vraiment de façon anecdotique, mais globalement ce sera sec. On aura quelques éclaircies sur l'ouest parisien, mais aussi vers les les Pays de la Loire, l'ouest du centre-val de Loire ou encore la Nouvelle-Aquitaine. Les températures cet après-midi, il ne fera que moins 1 à Aurillac, 1 à Nevers, 2 à Lyon, 3 à Paris, 4 à Lille, 6 à Tarbes, il fera 8 degrés à Nantes et 12 à Nice.
Merci beaucoup Marina. Cyprien, je sais que vous adorez le ski, donc tous les prétextes sont bons pour vous rapprocher des montagnes. Vous avez décidé de surfer avec le forum de Davos aujourd'hui.
Le WEF pour les initiés. On dirait un chien qui aboie. World Economic Forum.
Allez, à tout de suite sur RTL.